Chapitre 2 Du scepticisme. Mais laissons ces sortes de démonstrations, malgré qu'elles aient toujours paru solides aux sages. Supposons que ni la tradition, qui nous montre partout la religion en honneur, ni la métaphysique, qui rattache la société humaine au gouvernement de Dieu lui-même, ne prouvent absolument rien. Admettons que le genre humain peut désormais ne pas se ressembler sur ce point, qu'il peut en venir à dépouiller la religion comme le linge de sa première enfance, et revêtant enfin la robe virile, se montrer aussi complètement athée qu'il a été autrefois dévot et superstitieux. Admettons encore qu'il soit possible de fonder le droit et la justice sans leur donner l'appui d'aucun dogme religieux. Cela ne s'est jamais vu, n'importe, il y a, comme on dit, commencement à tout. Plusieurs penseurs du dernier siècle n'ont-ils pas proposé de donner pour base à la société la sensation et le principe de l'intérêt bien entendu? Pourquoi de l'égoïsme de chacun ne sortirait-il pas l'équité, et pourquoi les conventions réciproques de ces égoïsmes individuels ne produiraient-elles pas une société sans modèle jusqu'ici dans le monde? Admettons tout cela, dis-je, et voyons si réellement un pareil peuple pourrait subsister. Remarquez que, pour que cette supposition soit réalisée, il faut que ce peuple se conserve dans un état de parfaite indifférence à l'égard de toute religion, sans que ses citoyens inclinent vers aucun dogme, vers aucune théologie, restant sur toute question religieuse dans une sorte d'ignorance et de quiétude semblable à celle où l'enfant s'est d'abord plongé. Il faut cela, dis-je, car si les citoyens qui composent ce peuple se font chacun une religion, ou se rattachent à d'anciennes religions et se divisent en sectes, ce n'est plus là le peuple athée dont nous parlons. C'est un amalgame de dévots ou de superstitieux qui suivent des drapeaux différents. C'est un composé de plusieurs églises. Il n'y a pas, à la vérité, un peuple unitairement religieux, mais il y a plusieurs peuples religieux dans un seul. Le résultat ressemble de tout point à ce que nous voyons aujourd'hui en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, en France. Il ne faut pas non plus, pour notre supposition, qu'un athéisme formulé et positif soit proclamé et enseigné chez cette nation, car un tel athéisme serait encore une religion. Supposons que les athées de la fin du dernier siècle, Lalande, Naigeon, Dupuis, etc., fussent parvenus à populariser et à établir leur système. Un tel système, une fois adopté, eût été une religion. La loi civile serait devenue nécessairement la conséquence de cette croyance. Les mœurs, les habitudes, les arts se seraient modelés sur elle. L'éducation aurait été réglée par elle. Enfin, tout serait tombé sous l'empire de cet athéisme formulé, et l'on serait rentré par là dans l'ornière d'où l'on s'imaginait sortir. On aurait eu une religion, la pire sans doute, et la plus absurde de toutes, mais enfin, c'eût été une religion. Il faut donc, pour l'hypothèse que nous avons faite, supposer qu'un peuple puisse être composé d'hommes complètement indifférents à toute question religieuse. Or, cela est-il possible? Empêcherez-vous les hommes d'être des hommes, c'est-à-dire des êtres raisonnables? Et comment, étant raisonnables, exerceront-ils leur raison sans que de tous côtés les problèmes religieux ne viennent les assaillir? Je fais, je l'avoue, des efforts inutiles pour concevoir comment un homme pourrait vivre absolument privé de religion et complètement indifférent à toute question religieuse. Un tel homme, ce n'est pas un homme, c'est une brute. Tout absorbé qu'un homme soit par ses passions, il est impossible que ses passions ne lui laissent pas de temps en temps du relâche et ne lui apportent pas des enseignements. La mort, dans tous les cas, en frappant autour de lui les êtres auxquels il s'attache, et la vieillesse et les regrets et les souvenirs de la vie passée se chargeraient de l'instruire, ou plutôt toutes nos passions, avec leurs revers et leurs chutes, ne semblent faites que pour nous dessiller les yeux et tourner nos regards à l'horizon infini. Je défie l'athée le plus intrépide de ne pas s'interroger sur le problème de la vie éternelle s'il vient à perdre sa maîtresse ou son enfant. Il n'y a donc, pour que notre supposition soit réalisée, qu'un moyen. C'est que les hommes, ne pouvant pas être indifférents, soient sceptiques, qu'ils se posent les questions religieuses, puisqu'ils ne peuvent pas faire autrement que de se les poser, mais qu'ils se gardent soigneusement de toute espèce de solution. Ainsi, de notre hypothèse primitive, nous passons à une autre hypothèse, savoir celle-ci. Un peuple composé d'hommes éclairés sur les questions religieuses et sollicités par leur raison comme par leur cœur de se faire une croyance, mais cependant systématiquement sceptique, peut-il exister et se maintenir longtemps dans ce doute absolu et universel? Cette nouvelle hypothèse me paraît aussi évidemment absurde que la première. Qu'il y ait dans l'histoire des époques où une classe dans un peuple a pu se montrer ainsi faite, cela est certain. Et nous sommes nous-mêmes, comme je l'ai déjà dit, un exemple remarquable de ces phases de scepticisme. Mais ces époques ont toujours été en même temps des époques de renaissance. À peine la première génération de sceptiques avait-elle rendu le dernier soupir, qu'une génération de croyants commençait à apparaître. À Rome, le scepticisme envahit tout sous Auguste, à la fin des guerres civiles, et Jésus naquit sous Tibère. De plus, comme je l'ai déjà dit aussi, on a toujours vu, à ces époques d'incrédulité, les anciennes religions protégées par les politiques et entourées par eux d'un respect hypocrite, ce qui est un grand signe. Les États, sentant ces colonnes leur manquer, s'épouvantent et cherchent à les solidifier afin de s'y tenir. C'est qu'en effet le scepticisme systématique n'est pas supportable pour un peuple, qu'un certain nombre d'hommes s'amusent à ce jeu d'esprit qui consiste à poser des questions et à ne pas vouloir de réponse, cela se conçoit. Que les heureux du monde, les gens de loisirs, les riches, les puissants, se plaisent à s'exercer dans l'incrédulité et dans le doute, comme des athlètes dans un gymnase ou des acteurs sur un théâtre, cela peut être pour eux une comédie divertissante. Mais les simples de cœur, et tous ceux qui travaillent et qui souffrent, trouvent ce jeu-là au-dessus de leurs forces. Qu'arrive-t-il donc ? Les plus éclairés, parmi les dominateurs, finissent par comprendre que la masse des hommes ne peut pas être sceptique comme eux. Ils voient d'ailleurs clairement que leur propre intérêt et leur sûreté exigent que le besoin religieux ait satisfaction chez le peuple. Et c'est alors qu'on proclame à la fois que la religion n'est faite que pour le peuple et qu'elle est pourtant indispensable et nécessaire. Les sceptiques prennent un masque et se font comédiens de religion pour le peuple, comme ils sont comédiens d'irreligion entre eux. De là une réaction hypocrite contre l'esprit philosophique et novateur. Ces moments de la vie d'une nation, où ce que l'on appelle la haute classe est pourrie d'incrédulité et se fait ostensiblement dévote par politique et par intérêt, où elle ridiculise, dédaigne et persécute l'esprit religieux régénérateur, en même temps qu'elle voudrait redoubler sur les yeux du peuple le voile des anciennes superstitions, ces époques, dis-je, sont les plus tristes et les plus douloureuses de la destinée des nations. Le scepticisme le plus étendu qui puisse se répandre chez un peuple a donc toujours des bornes très étroites. Il y a mille raisons pour cela, et la première, c'est que les hommes de loisirs se voient, à peine atteints de cette maladie, qu'ils font tous leurs efforts pour empêcher la contagion de s'étendre aux classes inférieures. Qu'arrive-t-il donc nécessairement, même alors que l'incrédulité règne dans les sommités d'une nation? C'est que les bases de cette nation, le peuple, suit par habitude la vieille religion, ou qu'au besoin il se passionne pour toutes sortes de sectes et de systèmes. Alors une foule d'opinions diverses circule chez ce peuple et réunissent des groupes plus ou moins nombreux d'adhérents. Les religions tronquées s'y voient de toutes parts et s'agitent dans une effroyable confusion comme ces monstres par lesquels, suivant Épicure, le monde avait dû commencer. Dès lors, ce n'est plus encore le peuple athée que nous avons supposé. Notre supposition est encore une fois détruite. Nous avons un peuple composé de citoyens religieux, à divers degrés, de superstitieux et de sages, de dévots, d'imbéciles, de fripons, qui exploitent la crédulité. Mais nous n'avons plus un peuple d'athées. Admettons cependant, pour notre dernière hypothèse, car il n'y en a plus à faire après celle-là, admettons que tous les efforts des sceptiques de la classe supérieure pour empêcher l'incrédulité de se répandre soient inutiles, que le peuple tout entier vienne à s'éclairer, qu'il se fasse douteux et sceptique comme ses maîtres, qu'arrivera-t-il? Ce peuple de docteurs s'appliquera-t-il à éterniser le doute? Proclamera-t-il à jamais le scepticisme? Oh non! Et ceci est un phénomène infiniment remarquable. D'un peuple entier parvenu à ce point, il sortirait nécessairement, non pas le scepticisme, mais l'affirmation la plus positive, le dogmatisme, la foi. C'est que Dieu est ici, Dieu qui a mis la certitude dans le rapprochement des hommes, vox populi, vox dei. Douter, qu'est-ce que douter? C'est opposer une vérité à une autre, c'est peser deux opinions, c'est passer de l'une à l'autre, c'est soutenir successivement deux propositions contraires, c'est y croire successivement. Or, je conçois qu'un certain nombre d'hommes, à certaines époques, se détachent des opinions reçues par amour pour la vérité, et se mettent à douter. Ils sont seuls, le peuple n'est pas avec eux, ils ne peuvent pas le consulter. Où prendraient-ils leur certitude? Ils prennent leur parti cependant, ils ne consultent que leur conscience, ils opposent des opinions nouvelles aux opinions reçues, mais ils n'ont pas de certitude parce qu'ils sont seuls. Ils doutent donc, ils se font douteurs par système. Ô homme admirable, je vous permets à vous de douter. Je vous remercie au nom de l'humanité, dont vous avez avancé la marche, généreux douteur, brave sceptique qui avait douté en temps opportun, qui avait douté pour la vérité, pour la justice, pour la fortune future du genre humain. Oui, vous êtes grand pour avoir douté. Ils sont glorieux à jamais les douteurs des derniers siècles qui prêchaient le doute pour éclairer les hommes, pour inculquer la tolérance, pour renverser toute institution qui avait fait son temps et semer à leurs risques et périls la semence de l'avenir. Mais pour que tout un peuple doute, il faudrait donc que tout un peuple eût une connaissance réfléchie du pour et du contre. Or, si le peuple a cette connaissance, il n'y a plus lieu au doute, car il sort nécessairement du sein de cette multitude éclairée une solution. L'individu peut douter, 100 individus réunis ne doutent guère, mais des millions ne doutent pas. Toutes les fois que les hommes assemblés se sont consultés, ils n'ont pas répondu par le doute, mais par la décision, l'affirmation, la foi en eux-mêmes, le sentiment profond de la certitude, la croyance. Une nation composée de sceptiques, par système, cesserait donc de l'être au moment où tous ses membres se consulteraient. 100 sceptiques réunis, je le répète, feraient nécessairement un dogme, et le proclameraient, et y croiraient, et mourraient pour leur croyance. À plus forte raison, un peuple. Quoi qu'il en soit, il est bien évident que la supposition d'un peuple éclairé, et non indifférent à la religion, mais sceptique par système, est impossible à faire. Montaigne a beau vanter l'oreiller du doute pour les têtes bien faites, je conçois, je le répète encore, ce doute à l'époque de Montaigne, à une époque de crédulité et d'affranchissement à la fois, à une époque de guerre de religion, à une époque enfin où il fallait douter, où les sages devaient douter, mais je ne le conçois plus à une époque où le doute a tout envahi, tout déraciné. Lors donc qu'arrivent pour les nations ces phases de rénovation, où les vieilles institutions s'écroulent, ni le peuple ni les sages ne se plaisent pas à douter, mais ils veulent croire, et c'est ainsi que les nations se régénèrent et que l'humanité se sauve. Les aristocraties seules se flétrissent au milieu de leur niaise incrédulité et de leur zèle hypocrite pour les vieilles religions. On se fait en général une bien fausse idée du scepticisme. On va jusqu'à le prendre pour la philosophie. Mais douter, c'est uniquement aspirer à savoir. Douter, c'est la marque d'un besoin qui n'est pas satisfait. Le doute a un but, comme la faim, la soif et tous nos besoins. Ce n'est pas, ce ne peut pas être un état normal. C'est une souffrance, une maladie. C'est quelquefois la souffrance nécessaire, la maladie nécessaire d'une époque. Mais il ne s'ensuit pas que cet état doive aller en se perpétuant et qu'on doive s'y attacher. On ne perfectionne pas les maladies, on ne s'applique pas à conserver la fièvre ou la paralysie. Combien de gens, cependant, s'imaginent que l'humanité est désormais condamnée à perpétuité, au doute et à l'athéisme. Bonnes gens qui, parce qu'ils voient le doute régner aujourd'hui, se persuadent qu'il régnera demain. Combien aussi, et je parle de très habiles connaisseurs, de penseurs par métier, de philosophes en robe, vont décidant gravement que l'idée même de la philosophie est le doute. Ceux-là voient toujours deux camps dans le monde, la religion et la philosophie. La religion naît, se soutient, se continue, je ne sais comment. La philosophie, suivant eux, n'y est pour rien. Au contraire, la philosophie ne fait dans le monde que discuter, examiner, douter. Puis ils classent les philosophes en écoles opposées entre elles. Chacune de ces écoles est une sorte d'élément ou d'atome indestructible qui se prolonge indéfiniment. Le scepticisme est une de ces écoles. Les sceptiques sont sceptiques pour l'être. Ainsi, le scepticisme, suivant eux, est état normal. Entre les sceptiques et les dogmatismes, aucun lien, aucun rapport, aucune loi de progression et d'engendrement. L'esprit humain n'est donc pas une unité, mais une anarchie et un chaos. Cela vient de ce qu'on ne veut jamais voir dans tout acte de l'intelligence que des idées pures. Mais sous ces idées qui se peignent dans notre tête, il y a le sentiment. La vie n'est complète que par le sentiment et l'idée réunies. Les idées seules, ce sont des abstractions sans réalité. Les idées et le sentiment qui unissent ces idées au moi, et le moi qui les conçoit, voilà ce qui existe réellement. Voilà l'être triple et un dans toutes ses manifestations. Or, cela étant, qu'est-ce qu'un douteur ? Un douteur est un homme qui cherche, non pas seulement dans l'ordre abstrait des idées, mais aussi dans l'ordre du sentiment. Je veux dire qu'il aspire à l'idée, parce qu'il est mu secrètement par un certain sentiment, lequel appelle sa manifestation, sa forme. Plus il doute, donc maintenant, moins peut-être il doutera un jour. Cela s'est souvent vérifié dans l'histoire. Pour les individus, combien de dévots ont commencé par l'athéisme ? Mais pour les nations, c'est toujours ce qui arrive. Après le scepticisme, vient la foi. Dans les époques où le doute commence, envoyé au monde par la Providence pour déraciner les vieilles choses, les pulvériser et les faire disparaître, les douteurs, comme je l'ai déjà remarqué, sont seuls. Ils ont bien un certain sentiment de la vérité future que leurs successeurs proclameront un jour. Ils aspirent certainement à cette vérité, mais ils ne la tiennent pas. Il y a encore du temps à s'écouler entre eux et cette vérité. Ils restent donc aux prises avec l'idée de leur temps. C'est à prendre ou à laisser. Ils n'ont rien à mettre à la place. Restez païens, leur criait-on au temps d'Auguste. Restez chrétiens, leur disait-on au XVIIIe siècle. Ils se font douteurs. Ils nient, ils n'affirment rien. Ils ne trouvent de satisfaction à leurs sentiments qu'en niant, en protestant, comme disait l'un d'eux, contre toutes les sottises, contre toutes les erreurs. Et à force de nier, ils se font sceptiques par métier, avec art, avec méthode. Il peut en résulter, et c'est ce que l'histoire nous montre, des sceptiques sans idées à eux, des sceptiques qui ne le sont qu'en opposant les unes aux autres les idées déjà élaborées, déjà connues. Ce sont les pyrrhoniens purs. Où vont-ils ? Ils ne le savent pas, ils ne pourraient pas le dire. La Providence les a mis au monde, on ne sait pourquoi. Douter ainsi, en effet, ce n'est pas vivre, car c'est n'avoir pas de sentiments, ou au moins c'est avoir aussi peu de sentiments qu'il est possible d'en avoir sans mourir. Mais ceux qui leur succèdent ne sont déjà plus semblables à eux. Ils sont aussi éloignés, et plus éloignés peut-être, des vieilles idées auxquelles appartient encore l'empire du monde. Mais chez eux, une espérance vague de nouveauté et de changement s'est incarnée. Il en résulte, dans leur intelligence, comme une espèce de crépuscule ou d'aurore qui n'est ni le jour ni la nuit. Au fond de ces demi-ténèbres, au sein de ce chaos qui commence à se débrouiller, il y a un sentiment et une idée, un sentiment souvent très vif et très intense, alors même que l'idée qui lui correspond reste obscure. Tant que les douteurs sont isolés, et en petit nombre, voilà ce qui arrive. Mais à mesure qu'ils se succèdent, leur tendance se révèle mieux, et leur idée commence à devenir plus claire. Les uns donc se font utopistes, d'autres restent douteurs, d'habitude toutefois plutôt que d'intention. Mais laissez encore se développer ce germe, laissez aussi les vieilles choses achever de mourir, et supposez les douteurs devenus nombreux. À l'instant même, comme ils trouvent appui et certitude dans leur mutuel consentement, leur sentiment prend une force nouvelle en passant d'un cœur dans un autre, puis ils cèdent, mutuellement, à donner une forme à ce sentiment, à préciser l'idée qui le représente, et le dogmatisme reparaît avec l'énergie de toute chose qui commence sa carrière dans le monde. Si cela n'était pas, qu'on m'explique comment il se fait que les croyances les plus spontanées, les plus ferventes, ont précisément pris naissance dans les époques de scepticisme, et que le dogmatisme a toujours succédé au pyrrhonisme. La Révolution française, si dogmatique, si croyante, n'est-elle pas venue immédiatement après l'incrédulité la plus profonde? On venait de douter de tout, et on ne doutait plus de rien. On avait mis en question tous les principes de sociabilité, on avait exalté l'égoïsme, et on affirmait, on ordonnait le dévouement. On décrétait l'existence de l'être suprême, le peuple français reconnaissait cette existence, comme disent nos constitutions. Et ce n'était pas que la philosophie fût plus avancée sur ce point en 89 et 93, qu'elle ne l'était quelques années auparavant à la mort de Voltaire. Non. Mais dès que cette idée paraissait nécessaire à la société nouvelle, on voulait y croire et on y croyait. Et le christianisme, comment est-il sorti du pyrrhonisme de l'Empire romain? L'école de Platon n'avait-elle pas produit Carnéade et Arcisélaüs? Quel douteur, quel ergoteur du pour et du contre! Et voilà qu'à l'Académie sceptique succède l'école crédule d'Ammonius et de Plotin. Les philosophes se font croyants, tous les doutes s'éteignent et disparaissent, et la foi la plus vive, la plus téméraire même, une foi qui va même jusqu'à embrasser l'absurde, comme dit saint Augustin, devient le partage de tout ce qui pense. Résumons-nous. On voit que l'hypothèse de Bayle est insoutenable. Pas d'homme dont l'esprit ne soit forcé de se poser les questions religieuses, pas de peuple, par conséquent, dont les membres puissent être complètement indifférents à ces questions. Un peuple entier de douteurs grossiers et sans art est impossible. Un peuple entier de douteurs par principe, par art, par méthode, est également impossible. Enfin, les sceptiques n'ont pas paru dans le monde aux diverses époques pour introniser à perpétuité le pyrrhonisme, mais pour amener, par un secret de la providence, la foi, la certitude, le dogmatisme. La religion, et par conséquent le culte, qui en est l'expression, sont donc non pas utiles, comme dit Montesquieu, mais nécessaires à toute société humaine et vraiment inévitables.